Merci pour cette présentation, Lorenzo. Je vais commencer en disant quel bonheur. Quel bonheur d'être ici ce matin, dans un cadre magnifique que je découvre pour la première fois. Et j'ose espérer, pas pour la dernière. Je vais faire un souhait, c'est de revenir en famille, parce que c'est un lieu, effectivement, qui est propice au ressourcement, au recueillement, à la réflexion. Et puis, quel beau pays que la Suisse. Pour moi qui viens du sud de la France, j'y découvre la neige. Non, je vous assure, il neige très rarement chez moi. Alors, il neige en France, hein. On a aussi des Alpes. Mais en tout cas, voilà, quel grand bonheur d'être invité avec vous. Et donc, je vais traiter un sujet qui est la santé des dirigeants, qui est un sujet qui m'anime maintenant depuis 7 ans, depuis que j'ai créé un observatoire qui s'appelle l'observatoire Amarok. Alors, Amarok est un mot esquimo qui littéralement veut dire le loup. Mais en fait, c'est une légende inuite qui signifie que le loup doit protéger les caribous. Alors, c'est l'idée que si le loup mange trop de caribous, il crée lui-même les conditions de sa propre famine. Et vous ne l'avez pas dit, Lorenzo, mais avant de commencer, je ne suis pas professeur de médecine, je suis professeur de management. Et je me qualifie toujours, où que j'aille, de PMiste. Alors, c'est un mot que j'ai éprouvé le besoin d'inventer parce que je n'ai jamais enseigné que le management des PME. Et voyez-vous, quand on va en France, 99,84% des entreprises françaises sont des PME, c'est-à-dire des entreprises de moins de 250 salariés. Et quand on regarde le nombre d'emplois de ces entreprises, il y a 7 millions d'emplois salariés. Quand on regarde les grands groupes, en France, il y en a 243. Pour être précis, il y a 243 groupes français qui ont plus de 5000 salariés, puisqu'entre la PME et les grands groupes, on a ce qu'on appelle les ETI, les entreprises de taille intermédiaire. Vous savez qu'en France, on adore les sigles, hein. C'est très connu. Et les 243 groupes, eux, emploient 4,3 millions de salariés. Et d'abord, je le dis toujours, je suis fier pour mon pays d'avoir des groupes comme Danone. Je suis fier pour mon pays d'avoir des groupes comme Michelin, et vous pouvez, vous, en Suisse, être fier d'avoir des grands groupes également. Je ne suis pas contre la grande entreprise, bien évidemment que non. Mais je m'intéresse à la PME en tant qu'entité qui ne se gère pas dans les mêmes conditions que les grands groupes. Et poser la question de la spécificité des PME, ce n'est pas être contre, c'est simplement reconnaître qu'une PME, ce n'est pas IBM divisé par 1000. Et quand on regarde chez vous, les statistiques, c'est à peu près les mêmes. Enfin, c'est un peu différent. Ce n'est pas 99%, je crois que c'est 99%. Hein. Mais à cette différence près, je dirais, quels que soient les pays, les PME sont partout. Allez en Suède, les PME sont partout. Allez en Allemagne, les PME sont partout. Allez en Allemagne, en Espagne, en Italie, en Grèce, les PME sont partout. Allez aux États-Unis, dont on dit que c'est le pays du big business, de General Motors et de General Electric. Regardez les statistiques. Les PME sont l'essentiel de l'économie américaine. C'est pareil au Canada et au Mexique. Allez en Chine, les PME sont partout. Allez au Japon, les PME sont partout. Il n'y a qu'en Corée du Nord. N'allez pas en Corée du Nord. Je ne suis pas sûr qu'il y ait des entreprises d'ailleurs. Et alors, si vous connaissez l'Afrique, vous savez très bien que l'Afrique, c'est une terre d'entrepreneuriat. C'est une terre d'entrepreneuriat parfois même informelle. Et donc, finalement, à l'instant où je parle, quel que soit, je dirais, le canton, quel que soit le pays, quel que soit le continent, les PME sont partout, sauf dans les livres. Et j'irai même jusqu'à vous dire, sauf dans les théories. Et voyez-vous, Lorenzo m'a dit... Il n'y aura que des praticiens dans la salle, on sera 80, des dirigeants, je vous demande d'être pratique. Moi, je vais vous faire une promesse, tout ce que je vais vous dire sera théorique. Et je considère qu'il n'y a rien de plus pratique qu'une bonne théorie. Et je considère devant vous qu'on a un grave problème en économie, qui est une discipline que j'apprécie, c'est ma discipline de base, mais c'est une discipline qui est borgne. Elle est borgne, j'ai pas dit aveugle, j'ai dit qu'elle est borgne, parce que cette discipline se représente le monde toujours à partir des géants. J'ai ma fille actuellement qui fait de l'initiation économique et sociale. Qu'est-ce qu'on lui apprend ? Le taylorisme. Mais Taylor, c'était un homme qui avait travaillé dans le secteur de l'acier. En France, on a Henri Fayol, le fayolisme, mais qui était directeur général des mines de Commentry. C'était des grands groupes. Et puis le grand récit qu'on nous raconte depuis toujours sur l'économie, c'est quoi? C'est l'histoire du Fordisme. C'est l'histoire du Toyotisme aujourd'hui. On nous parle des GAFA, on nous parle d'Uber, on nous parle toujours des grands. Et donc la représentation que l'on se fait de l'économie est toujours rivée, portée par les grandes entreprises. Et ça, ça produit ce que j'appelle un effet Gulliver. Et je définis un effet Gulliver comme un biais de représentation du monde à partir des géants. Et je vous laisserai un texte que j'ai écrit il y a 10 jours, et si certains sont intéressés, je pourrais même vous l'envoyer par email, que j'ai intitulé « Les PME, le tiers-état permanent ». Où j'explique dans ce texte que les PME n'ont pas d'historien, les PME n'ont pas d'économiste, les PME n'ont pas de sociologue. Vous prenez l'analyse marxiste, le marxisme c'est une dénonciation du grand capital, c'est pas une théorie alternative du petit patronat. Vous n'avez pas une seule page sur les PME dans l'analyse marxiste. Vous prenez le keynésianisme, on ne parle jamais de la PME. Et même dans le libéralisme, c'est surtout l'histoire, je dirais, de l'actionnaire qui prend le risque de dernier recours, qui a une réalité. Mais bon sang, la PME, c'est le patron patrimonial. J'irais même jusqu'à dire le patron patrimonial patriotique. Ce sont les mêmes racines, tout ça. Hein. Le mot patron, le mot patronyme, le mot patriarcal, le mot patrie, le mot patrimoine, ça vient du mot pater. Et on voit bien que le monde de la PME, quand on regarde les représentations qu'on a, que ce soit en économie ou même en gestion, qui est la discipline que j'enseigne, eh bien, il y a un biais de représentation. Quelles que soient les universités, mes collègues sont profs de marketing, profs de finance, profs de GRH. Mais ce découpage par fonction, il correspond au modèle organisationnel des grands groupes. Mais quand vous êtes dans une toute petite entreprise, vous croyez que le dirigeant a un DRH ? Vous croyez qu'il a un directeur financier ? Vous croyez qu'il a un DIRCOM ou un DIRCAB, un CODIR, un CODEX ? Mais on voit bien que le jeu de la division du travail, qui est le propre des grands groupes, ne correspond pas au modèle organisationnel des PME. Et bien pourtant, tout l'enseignement dans tous les pays au monde, dans toutes les écoles, est bâti sur le modèle de la grande entreprise. Il faut théoriser la PME. Parmi vous, qui a écrit des livres ? Je parle notamment... c'est exceptionnel. Et vous êtes des patrons de PME ? C'est très bien. C'est très bien. Parce que je remarque que trop souvent, les patrons de PME vivent des histoires extraordinaires, mais ils prennent rarement la peine d'écrire, de consigner par écrit ce qu'ils vivent. Un jour, j'entendais Henri Lachmann, le numéro un du groupe Schneider, qui est un grand groupe en France, enfin mondial même, dans le secteur électrique, et qui disait, quand j'étais à la tête du directoire, quand nous avions 1 million d'euros d'impayés, c'est-à-dire 1 million et 50 000 francs suisses, j'étais pas au courant. Vous n'êtes pas au courant, vous ? Mais même une ardoise de 30 000 francs, ça suffit peut-être pour certaines PME pour complètement désorganiser votre plan de trésorerie. Et j'ai même certains patrons de PME qui me disent « Mais moi, 20 000 euros d'impayés, le soir, je ne dors pas. » Alors, il y en a un qui n'est pas au courant et l'autre, il ne dort pas. Et après, on va me dire que la PME, les grands groupes, c'est la même chose. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Les PME sont partout, mais nos élites, dont je veux croire que ce sont des hommes et des femmes de bonne volonté, ne les voient pas. Lisez le livre de Jean Tirole, le dernier prix Nobel français. Ne parle pas de PME. Lisez Piketty, tiens Thomas Piketty, dont on parle beaucoup en France, le pourfendeur de l'égalité. Ne parle pas de la PME. Il a une haine de Bettencourt. Ah, le milliardaire, ça, il faut avoir sa peau. Mais on se rend bien compte qu'en fait, on ne parle jamais des artisans, des commerçants. Un jour, j'ai dit à la fac, je m'intéresse à la santé des artisans. Mon collègue me dit, c'est un sujet exotique. C'est extraordinaire. On a 600 000 artisans en France. C'est un sujet exotique. C'est extraordinaire. En France, je pense que c'est pareil. En Suisse, les patrons de PME n'ont pas de service de santé au travail. Il y a un impensé majeur de l'économie, un impensé majeur du management qui construisent les modèles. Et alors après, ben oui, je lisais l'actualité, le Swissness, la colère des patrons de PME, dit PME Magazine. Ben oui, quand on regarde le fonctionnement, ça me paraît assez bureaucratique. Alors, vous savez qu'en France, on ne manque pas de ça. Nous, on a notre compte de pénibilité. Alors, oui, il y en a qui rient, mais vous riez parce que vous êtes suisse, mais nous, en France, on rigole pas, parce que je suis aujourd'hui, tout en étant professeur à l'Université de Montpellier, j'ai 3 salariés, puisque l'association que j'ai créée a créé 3 emplois. Donc je vais y être assujetti. J'ai regardé, c'est des comptes d'apothicaire. Pour chaque salarié, il va falloir que je compte le nombre de fois où il a eu froid, où il a eu chaud, où il était en hauteur, où il était... Mais bon sang, je n'en sais rien. Alors du coup, cette bureaucratie rampante fait de nous, et je vous invite à lire le livre de Roland Gori, La fabrique des imposteurs. J'ai découvert en lisant Roland Gori que j'étais devenu un imposteur. Je ne pensais pas. Et en fait, Roland Gori nous dit, c'est quoi l'imposteur ? C'est celui qui s'adapte à un monde inadapté. Ah, ça je préfère. Parce que oui, à l'université qui est très bureaucratique, je passe mon temps à m'adapter à un monde inadapté. On a des plafonds de coûts qui sont plus bas que des planchers, qui sont plus hauts que des plafonds. Enfin, on ne peut pas fonctionner. On peut pas fonctionner si on n'est pas poussé à un moment donné à être dans une forme de système D permanent. Parce que la bureaucratie pousse au crime. Et le monde de la PME est moins libéral qu'anti-bureaucratique. Le monde de la PME est surtout allergique à la paperasse, à la complexité à laquelle elle est tout le temps confrontée. Alors du coup, cet impensé fait que le jour où je m'intéresse à la santé des patrons de PME, qu'est-ce que je découvre ? Rien. Rien. Et je m'étais amusé à déclarer, il y a 7 ans, qu'on a plus de statistiques sur la santé des baleines bleues que des entrepreneurs. Voilà. Oui, mais c'est tout à l'honneur de l'espèce humaine de s'intéresser à la préservation des espèces animales, bien évidemment. Il faut s'intéresser aux baleines bleues. Mais et les entrepreneurs, les indépendants, les commerçants, les artisans, les professions libérales ? Ah ben oui, mais alors... Non, il n'y a pas d'épidémiologie de la santé au travail des dirigeants. C'est la raison pour laquelle j'ai créé l'Observatoire à Maroc. Et j'ai 2 objectifs. Le premier, c'est de conquérir le monde. Ouais, ça commence. Je suis plus en France, là, je suis en Suisse. Ah, c'est le début. Ouais, c'est peut-être plus facile. Mais sachez que l'Observatoire Maroc a une antenne, ici en Suisse, à HEG Fribourg, qui est dirigée par mon collègue et ami, le professeur Mathias Rossi. Voilà, hein, donc à Maroc, est implanté en Suisse. Et j'ai également une deuxième implantation, j'ai une antenne au Japon, avec le professeur Katsuyuki Kamei, à l'université d'Osaka. Et je souhaite assez rapidement m'implanter aussi au Canada, et petit à petit, ben, porter cette question de la santé des entrepreneurs, ce que j'appelle le health entrepreneurship, en gros, hein, qui est finalement un thème qui n'a jamais fait l'objet d'investigation. Alors pourquoi on ne s'est jamais intéressé à la santé des dirigeants ? Pour 2 raisons, me semble-t-il. La première, c'est que tous les travaux sur la santé au travail, ce qu'on appelle en anglais l'occupational health, se sont historiquement intéressés à la question ouvrière. Et de vous à moi, ils avaient raison de commencer par la question de la santé au travail des ouvriers. Nous avons un intellectuel français qui s'appelle Villermé, qui en 1840 va écrire un ouvrage remarquable sur la santé physique et morale. À l'époque, on ne parlait pas de santé mentale, de la santé des ouvriers. On est en pleine révolution industrielle, on est en pleine concentration du capital, et effectivement, on voit émerger les grandes entreprises où là, effectivement, il y a prolétarisation. D'ailleurs, le marxisme est né de la révolution industrielle, pas avant. Et donc, à ce moment-là, il fallait se poser la question des ouvriers. Et donc, nous avons aujourd'hui beaucoup de réflexions sur la santé au travail, mais qui s'intéressent aux employés, aux salariés. Au cadre. Mais quand on est à son compte, quand on est un dirigeant non salarié, là, rien du tout. Et j'irais même jusqu'à dire que les spécialistes de la souffrance au travail se sont surtout intéressés à la souffrance liée au lien de subordination. C'est-à-dire que la souffrance, elle vient toujours du fait que vous avez un supérieur qui vous contrarie. Alors c'est terrible comme image, parce que du coup, si on victimise le salarié, ça veut dire que par contre-coup, on bourreauise en quelque sorte, pardonnez-moi ce terme qui n'est pas français d'ailleurs, que j'invente, mais on diabolise en tout cas la hiérarchie. Et surtout, ça donne le sentiment que ben, la hiérarchie, elle, elle ne souffre pas. Elle fait souffrir, oui, mais elle ne souffre pas. Donc je dirais que les souffrologues, entre guillemets, comme Christophe Dejour, comme Iri Goyen, dans une moindre mesure Yves Clos, se sont intéressés jamais qu'à la question salariale. Et d'ailleurs, le dernier livre de Yves Clos, Le travail au cœur, où il parle du travail en France, il prend 6 cas d'entreprise, France Télécom, la SNCF, le ministère public, Danone, etc., etc., et fait Gulliver caractéristique. On étudie 30% des salariés en France pour après généraliser en disant « je vais vous parler du travail en France ». On étudie le travail dans les grands groupes en Suisse pour vous dire « je vais vous parler du travail en Suisse ». Mais allez étudier ceux qui travaillent dans les PME. Il y a quand même, je dirais, un monde là extraordinaire, mais qui souvent passe à la trappe. Les PMistes suisses, je les connais, c'est Mathias Rossi, c'est Rico Baldeguer. Vous avez d'ailleurs les rencontres de Saint-Gall également, qui sont extraordinaires. Mais qui sont en même temps de plus en plus en entrepreneurship et moins en small business. C'est dommage. Il ne faut pas perdre l'esprit PME. C'est une réalité qui est fondamentale. Et donc, du coup, ben, les spécialistes de la souffrance du travail ne s'intéressent qu'aux salariés. Et puis, les dirigeants, eux, ils n'en parlent pas de cette souffrance. Et vous savez pourquoi ? Parce que les dirigeants, vous êtes sous l'emprise de l'idéologie du leadership. Quand on est un chef, homme comme femme, je tiens à le rappeler, et à le souligner, on se voit comme un leader, comme un gagnant, comme un battant, comme un winner. Employez le mot que vous voudrez. Mais du coup, quand on est dans la posture du chef, il n'y a plus d'espace pour exprimer une faiblesse. On imagine mal un chef d'entreprise arriver le lundi matin et dire à ses salariés « je ne me sens pas bien. Tenez, continuez sans moi. Je reviendrai demain, peut-être. » Non. C'est-à-dire que nous, on a fait des mesures et on s'est rendu compte qu'à l'absentéisme, ben, nous, on préfère un autre concept complètement diamétralement opposé, c'est le surprésentéisme. C'est-à-dire qu'en fait, les chefs d'entreprise, les dirigeants, ils vont travailler en étant malades. Je ne dis pas que c'est bien. Entendons-nous bien. Hein. Parce que si vous êtes malade et que bon, vous risquez de contaminer les gens. Mais il n'empêche que quand on regarde la sociologie patronale, on se rend compte que ce sont des hommes et des femmes qui vont travailler alors même qu'ils sont malades. Il faut vraiment qu'ils aient 40 de fièvre et peut-être davantage pour ne pas aller au travail. Donc on voit bien que la représentation au travail, elle est complètement biaisée. J'ai d'un côté des souffrologues qui sont complètement sourds à ce que j'ai appelé à un moment donné la souffrance patronale. Et puis j'ai les patrons qui, eux, sont muets par rapport à leur propre souffrance. Et donc, un dialogue entre des sourds et des muets, eh bien, ça produit quoi ? Ce que j'appelais une zone aveugle. C'est-à-dire l'absence totale de représentation de cette question-là. Donc la question de la santé des dirigeants commence par un déni, quelque part un tabou. Alors quels sont les résultats ? Parce que j'ai suivi plusieurs cohortes. Je fais, on va dire, un peu d'épidémiologie, quelque part, de la santé des chefs d'entreprise. Et j'ai suivi plus de 1000 personnes de manière longitudinale. On est parti de rien, on a accumulé beaucoup de données. Je me suis entouré d'une chaire que j'ai créée à l'Université de Montpellier sur la santé des entrepreneurs. J'ai aujourd'hui dirigé 6 thèses de doctorat sur un sujet où il n'y avait rien. J'ai 6 docteurs aujourd'hui en santé des dirigeants. Et on a écrit quelques ouvrages, on publie. Très bien. Quels sont nos principaux résultats ? Parce que j'ai déjà épuisé la moitié de mon temps. Et puis, vous entendrez mon réveil sonner, ça voudra dire qu'il ne me restera plus que 5 minutes. Voilà, parce qu'il est très important pour moi de respecter le temps qu'on m'a accordé, parce qu'il y a d'autres intervenants après moi, donc c'est la moindre des hygiènes de fonctionnement. La question de la santé des dirigeants commence par une phrase que j'ai entendue des centaines et des centaines de fois, c'est « je n'ai pas le temps d'être malade ». Voilà. Voilà, ça commence par ça. J'ai même entendu assez souvent des hommes et des femmes me dire « je ne tombe malade que quand je suis en vacances ». Mais attendez, je vois que certains disent « oui, oui, c'est... » Voilà, mais exactement, voilà. Voilà. C'est, un jour, j'ai même un artisan qui me dit « mais moi, du coup, je ne prends plus de vacances ». Voilà. Voilà. Et il me le disait sur un ton mêlé de fierté. Et vous mais non. D'autres le diront mieux que moi. Il faut se reposer. C'est très important. Il faut prendre une semaine à Trébérard. Voilà. Oui, monsieur Monard. Bon, voilà. Hein? Ici, en une semaine, c'est comme trois semaines ailleurs. Hein? C'est relaxant, mais du coup, c'est le repos intensif. Hein? Mais voilà, il y a en fait un déni, un refus. Ce sont des hommes et des femmes qui ne s'entendent pas, qui ne s'écoutent pas, qui finalement prennent rarement rendez-vous avec eux-mêmes, finalement. Ils sont tellement parfois passionnés d'ailleurs par leur entreprise. C'est leur bébé. Imaginez le mot créateur. Le mot créateur, c'est un mot religieux. La création d'entreprise. On dit pour un entrepreneur, c'est un créateur d'entreprise. Le mot est fort, mais du coup, certains se prennent pour un demi-dieu. Ils s'imaginent, en plus, des fois, l'histoire de la création commence dans une chambre d'étudiants ou dans un garage. Vous imaginez ? Le garage et la chambre, c'est la version moderne de l'étable. Ah oui. Alors du coup, ils se prennent pour des demi-dieux. Voilà. J'ai pas le temps d'être malade. Ils se prennent pour des surhommes. Et puis vous avez un auteur qui s'appelle Schumpeter, qui nous dit, oui, l'entrepreneur schumpeterien, c'est celui qui rêve de créer une dynastie. De créer... il se transcende. Alors on verra. La notion de transcendance est un élément fondamental, très important. Très, très important. Mais donc, du coup, on a mesuré les principaux facteurs auxquels sont exposés les dirigeants. Alors, je vous les livre. Le premier facteur, on en parle sans arrêt, on en parlera de plus en plus demain, c'est le stress. Le stress. Et j'ai même, moi, des dirigeants qui me disent, mais moi, j'aime le stress. C'est mon moteur. Si j'ai pas de stress, j'avance pas. Une semaine à Trébérard, c'est bien. Après, il faut que je remette la locomotive en marche. Parce que j'aime ça. Alors très bien, continuez à le dire. Mais ne comptez pas sur moi pour vous dire que vous avez raison. L'idée qu'il y ait un bon stress et un mauvais stress pour moi est de plus en plus remise en cause. Il y a un bon cholestérol et un mauvais cholestérol, ça oui. Mais le bon stress, un peu de stimulation, oui. Mais être en permanence sous l'emprise du stress, c'est un facteur pathogène. Deuxième facteur auquel sont confrontés les chefs d'entreprise, c'est la surcharge de travail. C'est-à-dire que quand on mesure le temps de travail des dirigeants, ils ne travaillent pas 35 heures, hein, ou 39 heures, ou 40 heures, je ne sais pas quelle est l'heure légale ici. Nous, en France, on est à 35 heures, et certains veulent qu'on tombe à 32 heures. Enfin, bon, on n'arrête pas le progrès, hein, bon, social. Mais bon, quand vous regardez les dirigeants, eux, ils travaillent entre 50 et 55 heures. Ce sont les plus gros travailleurs au monde. Ici comme ailleurs, partout, les dirigeants d'entreprise sont des hommes et des femmes qui travaillent énormément. J'en ai même certains qui me disent, mais moi, la nuit, le soir, quand je m'endors avec mes problèmes. Si vous saviez, le nombre de dirigeants qui m'ont fait le témoignage de dormir avec un carnet sur le meuble de chevet. Parce que vous comprenez, à 4h du matin, je suis réveillé. Parce que j'ai trouvé la solution à mon problème. Et donc, du coup, je veux l'écrire pour ne pas l'oublier. Ça, c'est extraordinaire. J'ai des témoignages d'hommes et de femmes qui m'expliquent comment, en pleine nuit, sans réveiller le conjoint ou la conjointe, ils arrivent à écrire la solution, et puis d'un coup, ils se rendorment du sommeil du juste. Et un jour, j'ai un artisan qui me dit, le lendemain matin, j'arrivais pas à me relire. Ça, c'est un témoignage que j'ai eu. Apprenez à écrire dans la nuit, c'est important. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que les chefs d'entreprise, ils s'endorment avec leurs problèmes. Et ça continue à tourner en boucle. C'est terrible. Ça me l'a fait quand j'étais en thèse de doctorat. La thèse de doctorat, ça nous sort par les yeux au bout d'un moment. Enfin, on pense qu'à ça, on rêve qu'à ça. Enfin, c'est vraiment aliénant quelque part. Hein, parce que vous imaginez un petit sujet, pendant 3-4 ans, vous pensez qu'à ça, c'est... Mais bon, c'est comme ça qu'on se forme aussi. Mais beaucoup de doctorants dorment avec un carnet. Parce que j'ai une idée, d'un coup, je le mets, et puis voilà, je me rendors. Donc, la surcharge de travail. Troisième facteur, c'est l'incertitude. Et je dirais que ça, c'est la noblesse des chefs d'entreprise. Et quelque part, des cadres salariés et dirigeants. Mais surtout, les chefs d'entreprise, c'est l'incertitude du carnet de commande. Moi qui suis fonctionnaire d'État, je connais mon salaire dans 5 ans. Dans 10 ans. Pourquoi vous riez? Sauf cataclysme grec. On on y songe des fois en France, mais normalement, je connais mon salaire. Quand je vois le banquier, ils sont gentils avec moi. Mais quand on est à son compte, c'est pas la même chose. Parce que le chiffre d'affaires, on ne sait pas. Et oui, mais ça, j'aime bien le rappeler à mes étudiants, parce qu'ils ne connaissent pas la vie des chefs d'entreprise. J'imagine que la règle, c'est le salarié, mais pas du tout. Et ça, vivre en permanence sous incertitude, c'est un facteur qui use les organismes. Et enfin, le dernier facteur, c'est la solitude, qui est un mal insidieux. Parce que, vous savez, le loneliness, c'est une expression très PMiste. Je suis le nez dans le guidon. Combien de fois j'ai entendu ça? C'est le sentiment d'un homme ou d'une femme qui est tellement dans l'urgence du quotidien que finalement il n'a pas d'autre choix que de prendre les problèmes toujours dans l'urgence. Alors oui, il traitera les problèmes importants, mais que quand ils sont urgents. Et vous connaissez la typologie entre les problèmes urgents et les problèmes importants. Et donc, on est sans arrêt sur le qui-vive. Ça finit par user l'organisme. Quand on a 20 ans, qu'on crée une start-up ou 30 ans, ça peut aller. Mais au bout d'un certain temps, vous le savez ça, avec le temps, tout s'en va. Oui, mais on ne sait pas ça quand on a 20 ans. Mais quand on se rapproche, à un moment donné, il faut préserver l'organisme. Et je vous laisserai ce livre qu'on vient de faire paraître il y a 3 mois avec la Banque publique d'investissement en France. On a fait une conférence de presse avec Nicolas Dufour et il m'a demandé de superviser cette étude. C'est « Vaincre la solitude du dirigeant ». Je vous en parle parce qu'elle est en accès libre, cette étude. Si vous tapez BPI France, le lab, vous pourrez la télécharger et vous aurez la version courte qui est ici. J'en laisserai un exemplaire pour ceux qui veulent et pour consulter. C'est très intéressant. Parce que pour la première fois, on m'a donné les moyens d'interroger 2400 personnes. Donc c'est comme si j'avais fait... C'est un échantillon représentatif. Et j'ai pris une échelle courte de mesure du risque de burn-out avec la solitude. Et donc, du coup, j'ai une statistique qui vaut épidémiologie. Je peux vous garantir que la solitude est un amplificateur de mauvaise santé. C'est-à-dire, se ressourcer à un moment donné, une sorte d'isolement voulu, non, ça non. Se retrouver soi-même, non, ça c'est choisi. Mais la solitude du dirigeant qui doit licencier quelqu'un, il n'y a rien de pire pour un dirigeant que de licencier quelqu'un, un PME. Je ne dis pas que dans un grand groupe... Quand on ferme une usine dans un pays lointain, c'est une chose forcément simple. Mais on ne connaît pas les gens, il n'y a pas de relation. Dans une PME, on est en face-à-face. On est avec des gens avec qui on a partagé le travail pendant 5 ans, pendant 10 ans. On va licencier quelqu'un dont les enfants sont peut-être dans la même école que mes propres enfants. Ce n'est pas la même chose. C'est comme, je dirais, quand j'ai fait mon service militaire à l'époque... Un adjudant nous avait dit, vous savez, tuer quelqu'un à l'arme blanche, c'est autrement plus dur que de tuer quelqu'un au fusil. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà tué quelqu'un à l'arme blanche. Non ? Je suis un peu déçu. Lorenzo m'a dit, mais il y aura des entrepreneurs. Hein. En Suisse, on est des tueurs, il m'a dit. Personne ? Mais... Vous êtes des majorettes. Ah, vous rigolez, mais je vais vous dire une chose. C'est que quand vous tuez quelqu'un à l'arme blanche, vous voyez la personne, vous la touchez, vous la sentez, ça vous marque à vie. Tous les militaires vous diront, la pire des choses, c'est le corps à corps. Appuyer sur un bouton avec un drone, c'est terrifiant, ça. C'est d'ailleurs une réflexion qu'on devrait tous avoir. Lisez Konrad Lorenz, l'Allemand, qui a écrit « L'histoire de l'agression », et qui nous dit que finalement... De toutes les espèces animales, ce n'est que l'homme qui lui a inventé une arme qui ne fait pas partie de son corps. Donc le savoir sympathique qui est si important. On a distancié nos engins de mise à mort. Donc appuyer sur un bouton, c'est terrifiant. Les gens ont l'impression de jouer à un joystick. À l'époque de l'homme de Cro-Magnon, ils s'entretuaient à coups de bâton. Mais bon, il y avait cette empathie qui faisait peut-être qu'à un moment donné, quand la personne avait perdu connaissance, on s'arrêtait. Non, c'est... Tout ceci est terrifiant d'ailleurs. Et en tout cas, voilà, je dirais que si je mets bout à bout tout ça, le stress, vous aimez ça, la surcharge de travail, vous êtes de très loin les dirigeants, les plus gros travailleurs, la solitude, l'incertitude du carnet de commandes, vous avez compris quelle est mon hypothèse. Vous devriez tomber comme des mouches. Et pourtant, quand je vous vois, vous me semblez plutôt bien portant. Ah, mais parce que j'ai une contre-hypothèse. Et ça sera ma conclusion. Il me reste 10 minutes, n'est-ce pas ? Voilà. Et ma contre-hypothèse, je la dois à un chercheur israélien, que le professeur Besson d'ailleurs cite également, qui est Antonovsky. Parce que j'ai lu attentivement ce que vous faites, et nous sommes très proches dans vos travaux et dans les miens. Antonovsky va inventer un mot qui est la salutogénèse. Vous avez vu, tout ce que je vous ai dit depuis ce matin-là est théorique. Hein. Je ne suis pas renié une seule seconde de ce que je suis. D'abord et avant tout un universitaire. Alors, un facteur salutogène, c'est un facteur qui est bon pour la santé. Par distinction d'un facteur pathogène qui est mauvais pour la santé. Retenez ce mot. Salutogène. C'est pas compliqué. Salutogène. Un facteur qui est bon pour la santé. Et c'est vrai, il a raison. Antonovsky fait le constat que quand on parle de santé, on est toujours plutôt arrivé à l'absence de maladie. Mais c'est assez négatif comme vision des choses, l'absence de maladie. Ce n'est pas que ça, la bonne santé et le bien-être encore moins. L'état de bien-être, de complet bien-être, c'est peut-être quelque chose de plus. Et donc, il faut trouver le mot qui permet après, une fois qu'on a mentalement repéré les choses, on va pouvoir progresser. Et donc, il nous invite à nous intéresser aux facteurs positifs. Quels sont les principaux facteurs salutogènes que j'ai découverts dans le milieu patronal des dirigeants ? Premier facteur, c'est ce que les psychologues appellent le locus of control interne. Alors, je traduis. C'est le sentiment de maîtrise de son destin. Figurez-vous qu'un homme ou une femme qui a le sentiment, à tort ou à raison, de maîtriser son destin, il vit mieux et plus longtemps que celui qui est fataliste. Ça, c'est un résultat qui a été accumulé dans plusieurs pays, à plusieurs périodes. Il y a une masse d'informations assez conséquente là-dessus. Deuxième facteur salutogène, ce que les anglo-saxons appellent le hardiness, c'est-à-dire l'endurance, qui est assez proche de la résilience d'ailleurs, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Ça veut dire quoi l'endurance ? Je tombe, et bien je me lève. Je retombe, je me relève encore. Je retombe à nouveau, je me relèverai encore et encore. Voilà. Je tombe 7 fois, je me relèverai 8 fois. Ben, figurez-vous, si c'est ça votre état d'esprit, ça c'est bon pour la santé. C'est pas le fait de prendre des coups qui est bon pour la santé. C'est le fait d'être capable de rebondir. L'instinct du rebond. C'est l'idée que finalement il n'y a pas d'échec. Il n'y a qu'une invitation à rebondir. Et si vous ne voyez pas l'échec comme un échec, mais si vous ne voyez l'échec que comme une étape transitoire qui vous a appris des choses et qui fait qu'un homme averti en vaut deux, eh bien dans ce cas-là, on relativise encore mieux les choses. Et donc on voit bien que le hardiness est un élément fondamental. Troisième facteur, on pouvait s'en douter, mais on a accumulé tellement de preuves sur ça, l'optimisme. Les optimistes vivent mieux et plus longtemps que les pessimistes. C'est pas une bonne nouvelle, ça ? Non ? Je vois dans le fond... J'ai remarqué que les pessimistes se mettent toujours dans le fond. Je sais pas, des fois qu'il y a le feu qui se déclare. J'en vois un qui se dit, tiens, voilà encore une mauvaise nouvelle. Mais je trouve que c'est une excellente nouvelle. Les optimistes vivent mieux et plus longtemps que les pessimistes. Tous les médecins vous le diront. L'optimisme de la guérison vaut en grande partie guérison. L'espoir fait vivre. Ben bien sûr, les optimistes voient l'espoir. Ils voient le bon côté des choses. Et d'ailleurs, avec l'observatoire à Maroc, on s'est intéressé aux pessimistes. Ah oui. Et alors, on a découvert 2 espèces différentes. Il y a ce que j'appelle le pessimiste anxieux. Oh, ça, c'est terrible. L'anxiété, vous savez. Ce sont des hommes et des femmes qui, quels que soient les événements, voient tout en négatif. Mais je ne sais pas si vous l'avez remarqué comme moi. En général, les anxieux, ce n'est pas des causeux. Ça va, toi ?
Oui. Ça va.
Ils sont là, tranquilles, dans un coin. Ils souffrent en silence. Voilà. Je dirais, ils font de mal à personne si ce n'est à eux-mêmes. Vous savez, les atrabilaires, ils psychosomatisent. Ils se bouffent de l'intérieur. C'est terrible, ça. Il y a une 2e espèce de pessimiste que j'appelle le pessimiste anxiogène. Je ne sais pas si vous voyez la nuance. Ah ouais, ouais, ouais. Le pessimiste anxiogène, c'est un anxieux, mais qui vous irradie d'anxiété. Vous voyez ? Et on dirait même qu'il en est fier. Je vais vous prendre une anecdote qui m'a marqué. Moi, il y a 10 ans, j'enseignais dans une faculté de lettres. Bon, imaginez, alors, faculté de lettres en France, c'est tous les 2 ans en grève. Ouais, mais, mes étudiants, c'était des trotskistes, des léninistes, des maoïstes. Enfin, j'ai fait de l'entrepreneuriat en milieu hostile pendant 10 ans. Et ce jour-là, j'allais surveiller un examen. Et puis, j'étais sur un long couloir, mais très long comme ça. Puis d'un coup, je vois arriver une de mes collègues qui arrive. Bon. Et quand elle arrive à ma hauteur, elle me dit « Ah, tiens, qu'est-ce que tu fais là ?» Ben, je veux dire, 10 ans plus tard, je lui dis « Pourquoi je lui ai répondu ?» Je lui dis « Je vais surveiller un examen. » Elle me répond « Ah, tu auras assez de papier ?» Sous-entendu, de papier d'examen. Je suis un vieux prof, moi. J'ai commencé très tôt. À l'âge de 22 ans, j'avais passé mes sacrements, comme on dit. Et des examens, j'en ai organisé mais des centaines et des centaines. Eh bien, je ne me suis jamais, vous entendez, je ne me suis jamais posé la question avant un examen de savoir si j'allais manquer de papier. Jamais. Mais quand elle me dit ça, je me dis, tiens, c'est pas con comme question. Mais immédiatement après, je me dis, mais alors, est-ce que j'aurai assez de papier? Vous comprenez? Eh bien, c'est ça l'anxiogène. C'est cette personne que vous croisez en 5 secondes. Elle vous a insinué le doute. Et après, elle me dit, ah, et si tu as un étudiant qui triche? Ah, tu auras assez d'examinateurs? Et puis, elle est partie. Vous savez, et puis, ça vous est jamais arrivé, ça? Des fois, vous êtes bien. Puis d'un coup, vous dites, je suis pas bien. Je me sens pas. Ah! Vous avez vraisemblablement croisé un anxiogène. Hein? Alors, comment, et je terminerai là-dessus, comment on gère les anxiogènes? Parce que je suis prof de management. C'est une vraie question, ça. Et je vois 2 types de solutions. La première, et je voudrais que ce soit un message d'espoir. Oui, parce que j'ai bien vu que tout le monde n'a pas rigolé dans la salle. Je repère maintenant les... Voilà. Alors, je vais vous faire passer un message. Ne vivez pas toute une vie sous l'emprise de l'anxiété. Les psychologues vous diront, l'anxiété, c'est un trait de personnalité. Ah, et le problème, c'est que c'est stable. Ouais. Oui, à court terme. À court terme, oui. Mais si vous en avez la volonté, faites-vous accompagner. Et vous pouvez changer. Il faut vous faire accompagner, parce que peut-être que seul, vous ne vous en sortirez pas. Mais peut-être avec un psychothérapeute, un psychologue, peu importe, un coach qui va vous aider à vous ressourcer, peu importe, faites-vous accompagner, mais ne restez pas toute une vie sous l'emprise de l'anxiété, parce que ce n'est pas une vie. Deuxième méthode, peut-être plus radicale, mais quand même, parce que des fois, on n'a peut-être pas le temps d'expliquer à la personne qu'elle est un peu... Bon, mais je vais vous dire, c'est la seule chose de maths que j'ai appliquée dans ma vie. C'est la tangente. Vous voyez, vous savez ce que c'est la tangente, hein? C'est-à-dire que la première fois, l'anxiogène vous prend en traître. Bon, mais avec ma méthode des palpitations cardiaques, vous avez réfléchi, vous l'avez repéré. Eh bien, la prochaine fois que vous le croisez de loin, hein, vous faites en sorte que sa trajectoire ne croise jamais la vôtre. Parce que ce qui est terrible, c'est qu'il va vous filer son anxiété et vous n'avez rien gagné. C'est, et je m'en souviendrai toujours, j'étais à la... Fédération du bâtiment à Lorient, en France. Et à la fin de mon propos, j'y arrive, j'ai un artisan qui vient me voir et me dit « Ah, votre définition de l'anxiogène. » J'ai dit « Vous avez reconnu un collaborateur ?» Il me dit « Non, ma femme. » J'avais pas l'air malin avec ma tangente. Voilà.
On reprendra plutôt sa première image de l'étoile filante créatrice dans les tables que celle du rayonnement anxiogène. Merci infiniment.
Alors Lorenzo, en fait, pour terminer, j'ai mesuré tous les poids. Et en fait, la bonne nouvelle, c'est que les poids salutogènes chez les dirigeants pèsent davantage que les facteurs pathogènes. C'est-à-dire que ma conclusion, c'est qu'entreprendre, c'est bon pour la santé. Il y a une salutogénèse entrepreneuriale. Voilà.